7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Michael Thébault, bonsoir.
Bonsoir, Nicolas.
Ailleurs dans le monde, pour commencer, on reparle ce soir de Whirlpool, mais vu non pas du site d'Amiens dans la Somme, mais de Pologne.
Et oui, de Pologne et plus précisément de Lodz. Ça, c'est pour l'orthographe, mais ça se prononce Łódź, troisième ville du pays, 750 000 habitants. On est ici en plein centre de la Pologne. Et c'est donc ce site que l'américain Whirlpool a choisi pour délocaliser l'an prochain la production de sèche-linge d'Amiens. 290 salariés français vont perdre leur poste. Łódź, une ville littéralement anéantie pendant des années par une foudroyante crise du textile, mais une ville pourtant devenue depuis peu la nouvelle destination en vogue pour les délocalisations. Bonsoir Marion Lour.
Bonsoir.
Alors vous rentrez tout juste de Łódź, Marion, où vous avez observé et décortiqué pour nous cette étrange renaissance.
Il n'est pas 10h du matin et des dizaines de personnes se pressent sous les néons verdâtres du bureau des passeports de Łódź. Personne ici ne parle polonais, s'énerve un quadragénaire barbu, et pour cause, la plupart des gens ici sont ukrainiens venus de leur pays en guerre pour pourvoir des postes vacants en Pologne.
Je m'appelle Oleg Nachirniak. Je suis venu ici pour travailler et là j'ai l'intention de rester vivre ici et de demander la citoyenneté polonaise.
Oleg inscrit son nom en bas d'une liste, celle des gens qui attendent pour faire leur demande de titre de séjour. Lui habite ici depuis 2 ans déjà. Il a même monté sa société de recrutement pour faire venir d'autres travailleurs ukrainiens très demandés sur le marché.
J'ai fait venir déjà une centaine de personnes. Ils travaillent surtout dans le bâtiment, l'industrie. L'administration nous facilite les choses pour venir ici, car les Polonais sont partis à l'étranger. Là-bas, ils gagnent plus. Il y a vraiment un besoin de main-d'œuvre ici, sur place.
1,5 million d'Ukrainiens travaillent aujourd'hui légalement en Pologne pour 38 millions d'habitants, mais personne, ou presque, ne leur reproche de venir voler le travail des Polonais. Le salaire minimum, l'équivalent de 450 euros par mois, ne suffit plus à retenir les travailleurs locaux. Et le chômage atteint 5,5%, autant dire le plein emploi, alors que le pays a besoin de plus en plus de bras, car les investissements explosent.
Et maintenant, Marion, changement total d'ambiance. Nous voici dans un immense centre commercial.
L'un de ces investissements faramineux réalisés à Łódź ces dernières années. Imaginez un énorme bâtiment de briques rouges transformé en cinéma, en hôtel de luxe et qui abrite les enseignes occidentales les plus modernes, des produits qu'un ouvrier de Whirlpool pourrait difficilement s'acheter. Dans les mêmes murs se trouve l'Alliance française.
Je m'appelle Anna Olczak, je suis directrice adjointe à l'Alliance française de Łódź. On est dans un de cet empire industriel qui a été créé ici au 19e siècle. C'est 23 hectares d'industrie textile. Cette grande industrie textile, malheureusement, a vécu son chute dans les années 80. C'était la Chine qui a pris la main. Ça tombait complètement en désastre. C'était clôturé de partout. Il y avait des arbres qui poussaient partout. Et en fait, il y avait cet investisseur français qui a reconstruit l'usine. L'ouverture des manufactures, c'était 2006.
Pourquoi l'industrie marche bien ici?
Je sais combien les gens gagnent ici. Donc moi, je pense que malheureusement, heureusement, je ne sais pas comment dire, mais les salaires sont 4 fois moins chers, moins élevés qu'en France.
Est-ce grâce au salaire, Whirlpool compte ici 2200 salariés, bientôt plus avec la délocalisation. Whirlpool, Siemens et Bosch forment une vraie filière électroménager dans la région. Les sous-traitants auto comme Hutchinson occupent une surface importante, il y a même quelques entreprises informatiques.
Et visiblement, Marion, la ville de Łódź travaille énormément pour peaufiner justement cette nouvelle image.
Et rendez-vous dans les bureaux voisins de la mairie de Łódź. On y retrouve Mateusz Sipa, jeune homme en costume à la mèche lisse, le visage attrayant, censé vendre le projet d'exposition universelle à Łódź en 2022, séduire les investisseurs étrangers, car l'un des principaux investisseurs ici, c'est encore la ville et l'État.
Maintenant, on est une des villes avec le plus d'investissements en Pologne. Avec le gouvernement, on réalise le projet de revitalisation de ces quartiers du 19e siècle. On a construit une des gares les plus modernes, un tunnel sous la ville pour des TGV. On manquait de cette impulsion pro-développement. Aucune ville ne peut se vanter d'avoir des investissements à telle échelle et on commence à en tirer profit. Le taux de chômage a baissé de 4 points en 3 ans.
Łódź, ville ambitieuse, trop peut-être. L'immense gare de la ville semble une gare fantôme, tant elle est peu fréquenté, mais les politiques, syndicats et patrons entendent profiter du moment pour cultiver leurs atouts hors coût du travail, pour qu'à la prochaine vague de délocalisation, quand les salaires auront grimpé, les autres Européens ne leur disent pas, comme eux expliquent aujourd'hui aux salariés français. Les délocalisations, on ne peut rien y faire, c'est la loi du marché.
Marion Lourd, de retour de Łódź en Pologne, où Whirlpool fabriquera donc bientôt ses sèche-linges. Merci.
Et suite maintenant, Michael, de notre série de reportages consacrée à la présidentielle française, vue d'ailleurs, vue ce soir de Tunisie.
Oui, de Tunisie, où ce scrutin, vous vous en doutez, est particulièrement suivi. Un siècle et demi d'histoire commune, près de 700 000 Tunisiens et Franco-Tunisiens qui vivent aujourd'hui en France, et la France qui reste de loin le premier partenaire économique du pays. Bonsoir Justine Fontaine, correspondante de France Inter à Tunis.
Bonsoir Michael, bonsoir à tous.
Alors dans cette jeune démocratie tunisienne, Justine, comment l'élection française est-elle suivie, peu ou très commentée ?
Eh bien, Michael, ça dépend des âges. Chez les jeunes, pas tellement. Par contre, au-delà de 50 ou 60 ans, on trouve des passionnés comme Nordine.
Dès le début, j'ai tout suivi. J'ai vu aussi le débat. Et encore, j'attends le débat entre Macron et Mme Le Pen. Moi-même, j'ai choisi dans ma tête, j'ai choisi le président de la France. Voilà, Inch'Allah, celui que j'ai dans ma tête, il va gagner. Voilà.
Bon, et parmi les Tunisiens que vous avez rencontrés, Justine, quel candidat est le plus commenté ou critiqué ?
Ça ne vous surprendra probablement pas, Michael. Marine Le Pen n'est pas plébiscitée ici.
Comme tous les Tunisiens, on est contre Le Pen, vu ses positions contre les Arabes et les immigrés d'une façon générale.
Un peu plus loin, ce Tunisien originaire de la côte sud du pays reproche aussi à Marine Le Pen son revirement récent sur la sortie de l'euro.
Celui qui change d'avis rien que pour avoir la présidence, pour moi, il n'a pas de place. Le Pen, elle a changé d'avis concernant l'Europe, n'est-ce pas ? Un politicien doit avoir ses convictions jusqu'au bout.
La plupart des Tunisiens que j'ai rencontrés et qui suivent l'élection française soutiennent ouvertement Emmanuel Macron et ne croient pas vraiment à une victoire de Marine Le Pen dimanche.
Et s'il y a bien un endroit en Tunisie, hein, Justine, où l'élection est très très suivie, c'est évidemment à l'Assemblée.
Oui, Michael, tous les élus s'y intéressent, comme l'explique Bochra Belhaj Hamida, députée indépendante, élue en 2014 sous l'étiquette du parti Nida Tounes, fondé par le président actuel.
Il faut dire, avant la révolution, on les suivait par procuration, parce que nous n'avions pas d'élection, donc c'était comme si on vivait la démocratie par procuration. Aujourd'hui, j'espère que ça continuera. La Tunisie, nous aussi, nous vivons des élections. Mais cela ne nous empêche pas d'être très intéressés par certains pays, et notamment la France. Vous savez, les liens entre la Tunisie et la France.
Elle-même observe de très près la campagne. Elle regrette les divisions de la gauche, mais elle ne craint pas la politique de Marine Le Pen si elle est élue, car elle ne pourrait pas appliquer ses promesses, dit-elle. Par contre, elle a peur que son éventuelle élection ne renforce les tensions dans la société française contre les musulmans.
Et autre parti politique, Justine, vous avez également rencontré une députée islamo-conservatrice du parti Ennahda.
Oui, c'est Meherzi Alabidi, ancienne vice-présidente de l'Assemblée constituante, et elle ne croit pas à une victoire de Marine Le Pen dimanche.
Certes, l'inquiétude, elle est toujours là, mais les extrêmes en général, il y a certains caps qu'ils ne franchissent pas dans les sociétés foncièrement, intrinsèquement démocratiques, notamment la société française. Je dis ça pour avoir vécu là-bas, une trentaine d'années, et puis en quelque sorte, je continue à vivre parce que ma famille est là-bas.
Elle rappelle aussi que si les députés s'intéressent tant à la présidentielle française, c'est pour savoir avec qui ils devront négocier ces 5 prochaines années dans le cadre des relations franco-tunisiennes.
Et réponse dimanche soir, Justine Fontaine, correspondante de France Inter à Tunis. Merci. Et pour finir, Nicolas, musique. Alors, de quel pays est-ce l'hymne national ?
Je ne sais pas du tout, Michael.
Jamais entendu ?
Jamais, non.
Moi non plus, hein, il y a 10 minutes, j'ignorais. Eh bien, il s'agit de l'Uruguay. Ah. Et pourquoi ai-je envie de vous parler de l'Uruguay ce soir ? Eh bien, parce que le pays a officiellement ouvert aujourd'hui un registre unique au monde. Tous les Uruguayens et étrangers titulaires d'une carte de résident permanent qui souhaitent, à compter du 1er juillet prochain, s'acheter légalement du cannabis doivent s'inscrire ici, sur ce registre, car l'Uruguay deviendra cet été le premier pays au monde à vendre en pharmacie et pour un usage exclusivement récréatif du cannabis produit sous contrôle de l'État. La drogue sera commercialisée au prix fixe d'1,30$ le gramme, chaque consommateur pouvant en acheter au maximum maximum 10 grammes par semaine. Loi, on en avait parlé hein, ici même, et qui avait suscité un très large tollé international lors de son adoption, mais qui suscite aujourd'hui surtout l'ironie de très nombreux Uruguayens. Un membre du gouvernement disait ainsi ce matin que son pays allait montrer la voie et d'ajouter que le prochain chef d'État français devrait en prendre de la graine. À demain.
À demain, Michael.